Ce qui nous réunit, c'est notre désir de recevoir des grâces de libération, car c'est le but de cette journée. Mais nous disions la dernière fois que notre but n'est pas la libération. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Notre but, c'est pas seulement d'être vidé de toute présence ou des choses pas bonnes, d'accord, mais notre but, c'est d'être rempli. Et rempli à 100%. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Puisque nous sommes faits pour être remplis de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi jusqu'à maintenant. Alors, l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. La lumière, je reprends une image de Saint Jean de la Croix. La lumière, on en a besoin. Mais la lumière, ce n'est pas nous. Nous sommes comme un cristal. Quand vous mettez le cristal dans la cave, à l'abri de toute lumière, ou avec une lumière un peu faiblarde, le cristal ressemble à n'importe quel autre caillou. Mais quand vous mettez le cristal à la lumière, alors il est véritablement lui-même. Et c'est pourquoi nous avons dit la dernière fois, en reprenant les paroles de Saint Séraphin de Sarov, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. L'acquisition du Saint-Esprit. C'est notre but. Si nous sommes là juste pour être vidés, bon, en fait, vous savez, l'Évangile nous dit, quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils y rentrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Voilà ce qui arrivera à cette génération mauvaise. Vous avez reconnu Matthieu 12, 43 et suivant. Alors, Jésus dit par contre, sur moi, le prince de ce monde ne peut rien. Jean 14, 30. Si Jésus est tout en nous, alors le prince de ce monde ne peut rien. Rien. Voilà. Alors, je vous rappelle les dispositions du cœur indispensables pour que nous puissions attirer à nous le Saint-Esprit et l'accueillir. La première disposition, c'est le désir. Excusez-moi, mais on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Sauf que nous avons tous soif du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Alors cette soif de Dieu, cette soif d'amour, elle est en chacun. Mais il faut peut-être la dessabler, cette source-là, notre désir. Tout à l'heure, Marie-Ève nous a invités à exprimer notre désir. Et ça, c'est une des clés pour entrer dans la prière. Voilà mon désir, Seigneur. Si vous dites à Dieu, bon, mon désir, c'est d'accomplir mon devoir, j'aurai fait ma prière, je serai allé aujourd'hui, j'ai fait mon rituel. Bon, c'est un peu court. Vous comprenez que ce n'est pas votre véritable désir. Premièrement, donc, le désir. Deuxièmement, je reprends les termes de Saint Séraphin de Sarov. les actions vertueuses accomplies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est intéressant, vous voyez. On peut faire le bien, pas au nom de Jésus. Ce bien, il n'est jamais pur. Il s'agit d'agir au nom de Jésus. En fait, ça change tout. Au nom de Jésus, je me lève. Au nom de Jésus, je prends ma douche, etc. Et évidemment, nous dit saint Séraphin, c'est la prière qui va attirer dans nos cœurs le Saint-Esprit. Deuxième moyen. Troisième moyen, c'est, on n'aime pas trop ce mot, mais c'est la mortification. Prenons conscience, comme saint Paul dans Romains 7, que nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Alors, nous allons renoncer à notre vieil homme. Et il est bon de savoir à quoi nous renonçons. À des esprits de colère, par exemple. Des esprits de jalousie, par exemple. Des esprits de jugement. Parce que avant donc d'accueillir le Saint-Esprit, nous avons besoin de vider. Alors, pour vider, il s'agit de renoncer à ce qui est une ordure en nous, spirituellement, j'entends. Et enfin, le plus grand moyen, selon un saint bien français que nous aimons beaucoup, un saint que vous connaissez, saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le plus grand moyen pour attirer le Saint-Esprit, c'est d'accueillir la Sainte Vierge. Et nous allons parler de ça aujourd'hui, puisque nous nous préparons au 15 août. Voilà le programme. J'espère que ça vous convient. Voilà, accueillir la Sainte Vierge, la Vierge Marie, comme notre mère, c'est aussi un moyen, le moyen que Dieu nous donne pour notre combat spirituel. Car nous sommes tous appelés à la sainteté. Alors attention, la sainteté, ce n'est pas sainte Nitouche dans un casier quelque part. La sainteté, c'est vous, moi, transformé par Dieu. Il y a un beau projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Il nous veut à son image, vraiment. Attendez, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pensez que Dieu veut nous laisser dans les conséquences de nos péchés et du péché originel? Non. Parce qu'il nous aime. Et si nous sommes perdus, si nous avons quitté ce paradis terrestre, et ce n'est pas seulement une image, une allégorie, c'est nous qui sortons de la présence de Dieu, oui, ben oui, c'est une des conséquences du péché originel. Nous fuyons quelque part cette présence de Dieu. Alors, il ne veut pas nous laisser dans la cave, spirituellement. Et c'est lui qui vient. Dans le lieu spirituel où nous sommes, vous savez que la première lettre de saint Jean nous dit, au chapitre 5, que le monde entier gît au pouvoir du mauvais, avec un grand M, c'est-à-dire du diable. Autrement dit, ici, le démon a un pouvoir, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Parce que Jésus a dit, tout pouvoir lui a été remis désormais au ciel, sur terre et aux enfers. D'accord ? Mais ici, il y a quand même une domination démoniaque. Et quelle est la réponse de Dieu ? Il nous envoie son Fils qui vient dans ce bocal où nous nous trouvons. C'est ça. Il vient. Et il vient encore dans chaque Eucharistie, sur tous les autels du monde. Il vient, parce qu'il est fidèle. Et l'enjeu pour nous, c'est effectivement, puisque nous sommes des Christos, Je reprends cette image. Que ce cristal soit rempli tout entier de la lumière. Tout entier, j'ai bien dit tout entier. Corps, âme, psychologique, esprit. Mon corps avec ses cinq sens, y compris ma sexualité, tout. Y compris tous mes organes, vitaux ou pas, tout rempli de la présence de Dieu. Notre âme psychologique, notre mental, notre mémoire, notre imaginaire, notre intelligence, notre volonté, que tout cela soit rayonnant de la lumière de Dieu. Car notre intelligence, si elle n'est pas éclairée, elle est dangereuse. Car nous pouvons affirmer très longtemps des mensonges. Mais si je vous dis la terre, elle est carrée, et nous pouvons dire d'autres mensonges si notre intelligence n'est pas éclairée à chaque instant. Le Saint-Esprit, Dieu vient dans ce lieu spirituel. Il ne nous laisse pas au pouvoir des ténèbres, Colossiens 1, 13, mais nous arrache au pouvoir des ténèbres. Oui. Et le prologue de Saint Jean nous dit, de l'évangile de Saint Jean nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, enfants de Dieu. Autrement dit, nous participons, comme dit Saint Pierre, à la nature divine. Parce que l'enfant d'un homme et d'une femme, c'est un humain, on est d'accord, c'est pas un Dieu. L'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant d'un chat, c'est un chat. L'enfant d'un homme et d'une femme, c'est un être humain, c'est pas un Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais il nous donne pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les saints, quand ils se transfigurent, vous avez du mal à les voir, même avec des lunettes de soleil. Saint Séraphin de Sarov se transfigure devant son ami Motovilov. Il me semble que Saint François d'Assise a aussi vécu ça. Il me semble. Alors c'est nous, dès maintenant, un croyant, ça se voit. Vous êtes rayonnant et vous allez le devenir de plus en plus. Alléluia! Parce que nous sommes faits pour ça. Nous ne sommes pas faits pour un petit bonheur. Mais nous sommes faits pour ce bonheur de rayonner la présence de Dieu, même dans les ténèbres. Voilà. Alors, on comprend bien que pour y arriver, eh bien, l'Évangile nous dit que c'est une nouvelle naissance. C'est ce dialogue que Jésus a eu un jour avec un notable qui s'appelait Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors le programme pour nous, naître de nouveau. En fait, c'est déjà fait, vous êtes renés déjà. Vous êtes nés de nouveau. Mais oui! Prenons-le dans la foi. J'ai un ami évangélique qui s'est converti il y a assez longtemps, qui est chef d'entreprise en Allemagne. Et juste après sa conversion, tous ses collaborateurs se sont convertis. Enfin, ils ont mis une semaine. Les secrétaires, ça a été plus long. Ils ont mis 3 mois. Bon, tout le monde est converti. Il n'arrête pas, il est même un peu fatigant si vous êtes avec lui, si vous évangélisez tout le temps. Enfin, Bon, c'est magnifique. Moi, je suis un peu boosté quand on est ensemble. Et dans l'évangélisation, les évangéliques disent toujours, eh bien, tu es renu, tu es un être nouveau. Nous n'y croyons pas assez. Nous sommes un peu trop dans nos rituels obligatoires. Vous voyez ? Sortons de là. Sortons de là. Parce que l'enjeu, c'est la vie. Et la vie en Dieu. Voilà. Alors, vous connaissez la réponse de Nicodème. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? La réponse de Jésus, elle sera plus tard, au pied de la croix, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie. Femme de Clopas et Marie de Magdala, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Alors j'allais dire, c'est à prendre ou à laisser. Marie nous donne sa mère, il nous donne son corps jusqu'à la dernière goutte de sang. Il nous donne son esprit, il remet l'esprit. Il nous donne sa mère. Qu'est-ce qu'il peut nous donner de plus ? Et nous, eh bien, à nous d'accueillir ce cadeau. Je cite Louis-Marie Grignon de Montfort, « Oh, qu'on glorifie hautement Dieu quand on se soumet pour lui plaire à Marie, à l'exemple de Jésus-Christ, notre unique modèle. » Bon, c'est du Louis-Marie, hein. Il dit « Jésus-Christ a plus donné de gloire à Dieu, son Père, par la soumission qu'il a eue à sa mère pendant 30 années, qu'il ne lui en eut donné en convertissant toute la terre par l'opération des plus grandes merveilles. » Je ne sais pas si vous êtes convaincus. La soumission à Marie, ça vous fait peur, hein? Oui, parce que... voilà, Marie, c'est une mère, et puis nous, on est éventuellement blessés par nos mères. Vous connaissez les mères araignées, les mères poules, les mères vampires, qui sont intrusives, qui ne vous laissent jamais partir. Bon, ce n'est pas votre cas, évidemment. Alors, on a peur. On a peur d'une nouvelle mère. On dit à Jésus, bon, c'est bon, j'ai déjà donné. J'ai déjà du mal à quitter celle-là. Si c'est pour en prendre une autre. Alors, rassurons-nous. Rassurons-nous. Marie ne fait pas écran à Dieu. Au contraire, pourquoi ? Je cite toujours lui Marie. Marie est toute relative à Dieu. Et je l'appellerai fort bien la relation de Dieu, qui n'est que par rapport à Dieu, ou l'écho de Dieu, qui ne dit et ne répète que Dieu. Si vous dites Marie, elle dit Dieu. Vous voyez ? Voilà, on peut se détendre du coup. Il n'y a pas de risque à prendre Marie comme notre mère et de jouer le jeu et de dire à la Sainte Vierge, tu es reine, alors moi je te demande de prendre autorité sur moi. Je te demande que tu aies toute l'autorité d'une mère sur moi. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvé dans une âme, il y vole. Il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse. voyez, l'amour, enfin le vrai amour, c'est-à-dire l'amour agapé, c'est un amour qui est totalement gratuit, qui est doux et humble. Humble, ça veut dire que c'est le serviteur. Il est serviteur, cet amour. Serviteur du bonheur de l'autre. Ce qui est différent de l'amour, on en a parlé, philotia, en grec. C'est l'amour qui n'est plus gratuit. J'utilise l'autre pour mon bien. Je vais dire à l'autre, après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu te traites. Philotia. Ça, c'est pas l'amour agapé. Voici la servante du Seigneur. L'amour agapé est serviteur. Et une servante qui est l'Immaculée Conception, elle n'est que agapé. Elle est au service de notre bonheur. Alors, ce que je trouve extraordinaire dans le mystère de la Sainte Vierge, et pour nous c'est difficile un petit peu à imaginer, parce qu'on peut faire des exercices pour se mettre en présence de la Vierge. Bon, c'est bien. Et alors il y a plusieurs façons. Soit vous êtes à l'école de Louis-Marie Grillon de Montfort, donc, voilà, on sait que le sein de Marie est le grand moule de Dieu. Donc, on va rentrer dans le sein de Marie. Puis, si vous êtes blessé par vos mères, vous allez dire « Ah non, ça me fait vraiment trop peur de rentrer dans le sein de Marie. » Donc, alors, vous pouvez être aussi à l'école de la petite Thérèse de Lisieux. La petite Thérèse de Lisieux, elle se voit dans les bras de Marie, toute petite. Alors, vous avez l'enfant Jésus sur un bras, et sur l'autre bras, c'est vous, petit enfant, et sous le voile de Marie. Elle vous protège, elle nous protège. Alors, on peut choisir. Choisissez Louis-Marie, choisissez Thérèse, ou les deux, alternativement. Mais, en tout cas, si vous choisissez l'un ou l'autre, entrer dans la présence de Marie, c'est comme entrer dans une église où on se sent bien. Ou entrer dans la présence d'une personne rayonnante. Et là, vous vous sentez bien. Waouh, il se passe quelque chose. Votre cœur se dilate. Et c'est vrai que quand Dieu vient, il ne vient pas tout seul. Si vous connaissez aussi la petite Thérèse de Lisieux, j'en parle souvent, je vous en demande pardon, mais bon. Elle raconte que lorsqu'elle fait sa première communion, bon, c'est une expérience extraordinaire, c'est des fiançailles avec Dieu, c'est le plus beau jour de sa vie. Jésus et Thérèse ne font plus qu'un. Ça, c'est la première communion. Et la deuxième communion, c'est un peu plus tard, parce que vous savez, on ne communiait pas tous les jours, ni tous les dimanches à son époque. Et elle fait sa deuxième communion. Et à la deuxième communion, elle a une expérience de la communion des saints. Sa maman était là. Alors là, je parle de la maman de la terre, qui est décédée quand Thérèse avait 4 ans, un cancer du sein. Et elle dit que sa mère, elle était là. Alors, ça nous fait comprendre que quand Jésus est là, il est là avec toute la famille. D'accord ? Ben oui. Sauf que, alors, j'entends votre objection. Vous allez dire, moi, j'ai quand même envie d'être avec Jésus et c'est la seule. Moi aussi. Alors, cette présence n'est jamais intrusive, jamais. C'est ça qui est extraordinaire, je crois que c'est une des clés du mystère de Marie. Marie est là, mais comme en retrait. Imaginez que ce soit ici la chambre nuptiale, car Jésus est bien l'époux, d'accord ? Il est l'époux de nos âmes. Donc avec un époux, ou avec une épouse, on est seul. Et Thérèse le dira, Jésus seul, Jésus seul. Mais, eh bien, comme nous n'avons pas vraiment la foi, enfin, vous êtes déjà assez avancé dans la foi, mais en tout cas, peut-être pas assez, on peut mieux faire, quoi, d'accord ? Si vous aviez la foi, gros, comme un grain de CMB, eh bien, vous diriez à cette montagne, allez, va te jeter dans la mer. Bon, alors, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on n'a pas assez la foi ? Même si vous pouvez dire, mais si, moi j'ai quand même pas mal la foi, etc. Bon, peut mieux faire. N'oublions pas que l'ombre de Saint François guérissait les malades. L'ombre de Saint-Pierre guérissait les malades. Je ne sais pas si vous en êtes là déjà. Bon. Alors on va dire, peut mieux faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Alors, bonne nouvelle. Jésus nous donne sa mère, parce qu'il sait qu'on n'a pas assez la foi. Tout le monde, excusez-moi, s'est cassé la figure spirituellement au moment de la croix. Les apôtres sont tous partis. Marie, elle est là. Et je ne sais pas si vous avez un peu contemplé le mystère du samedi saint. C'est le sabbat. Samedi. Sabbat. Le sabbat, c'est une très grande présence de Dieu. Or, ce sabbat-là, samedi saint, c'était une grande absence de Dieu. Mais Marie, qui est juive, pratiquante, est-ce que vous pensez qu'elle était dans une grande absence tout court ? Moi, je crois pas. Puisque Jésus a dit sur la croix, au malfaiteur, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les cieux. » Et il a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. » Et son cœur est ouvert sur la croix pour que nous y entrions. Et en entrant dans le cœur de Jésus, nous sommes réconciliés avec le Père. Ça, c'est le mystère du samedi saint. Marie, le samedi, est peut-être la seule lumière qui reste allumée. La lumière de la foi. Vous savez, j'ai passé, pour les études, j'ai eu la chance de passer 2 ans à Rome. Et dans la basilique Sainte-Marie Majeure, il y a un très bel office du samedi saint, marial, samedi dans l'après-midi, où on conjugue les lamentations de Jérémie et le cantique des cantiques, en alternance. Et on lit un texte qui a été écrit par un père du 8e siècle, je crois. J'ai plus en tête son nom, vous me pardonnerez. En gros, il voit la Sainte Vierge comme spirituellement présente au tombeau. Et dans son cœur, il y a ce grand écart, vous voyez, que Jésus a vécu sur la croix. Et finalement, dans son cœur, elle réclame la résurrection, vous voyez ? Et Dieu le Père, il craque. Parce qu'il ne peut pas résister à la prière d'une mère. Et Jésus est ressuscité. Moi, j'aime beaucoup cette image. Je vous la livre. Bon, ce n'est pas dans l'Évangile, d'accord. Mais je crois que Marie, dans son cœur, elle n'a jamais flanché, ni dans la foi, ni dans l'espérance, ni dans la charité. Alors, voilà le cadeau que Jésus nous fait. Si nous n'avons pas assez la foi, eh bien, empruntons la foi de Marie. Osons emprunter la foi de Marie. Si nous n'avons pas assez d'espérance, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, l'espérance de Marie, elle est pour nous. Et on pourra en dire de même pour l'amour de Marie. Comme dit la petite Thérèse, le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et oui, c'est ce cadeau-là qui nous est fait en Marie. N'ayons pas peur des mères vampires, vous voyez. Marie est une mère dont on sentira sans doute assez peu la présence. C'est ce que nous dit Louis-Marie Grimond de Montfort. Parce qu'elle s'efface pour que Dieu prenne toute la place en nous. Et son rôle, c'est en nous donnant, en nous aidant de sa foi, de son espérance, de sa charité, et bien de nous conduire à Jésus. Et que Jésus soit en nous, parce qu'il ne va pas pouvoir résister, qu'est-ce que vous voulez? La maman, elle est là. Donc le Saint-Esprit ne résiste pas. Il se précipite dans une âme où il voit la Sainte Vierge. Alors, avec Marie, nous allons apprendre à dire oui à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà donné votre vie à Jésus. Réfléchissez bien. Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Je ne vais pas demander de lever le doigt. Non. Alors, moi, je vais vous faire une confidence. Avec ce fameux ami allemand, là. Bon, ce n'est pas à ma gloire, mais tant pis. J'étais un catholique pratiquant, militant, mais je me disais toujours, si je donne ma vie à Jésus, c'est dangereux. Bon, je me disais, je risque de devenir prêtre. Bon. Voilà. Et puis, je suis allé en Allemagne chez mon ami qui avait... Il venait juste de se convertir, donc un coup de fil, il me dit « Amen, Alléluia » toutes les deux minutes. Je lui dis « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et il m'invite à son mariage. Mariage avec Sigrid, avec qui il vivait depuis quelques années. Bon. Puis au mariage, on se trouve en Allemagne, donc il y a un tour de table. Chacun racontait comment il avait donné sa vie à Jésus. Donc, c'était du style avant... J'étais dans la drogue, l'alcool, tout ça. Et maintenant, un jour, j'ai rencontré Jésus, j'ai tout donné, et maintenant, c'est génial, alléluia, alléluia. Enfin, c'était ce style-là, vous voyez. Alors, moi qui suis un petit peu, bon, voilà, pas très original, quoi. Il n'y a pas de drogue, pas d'alcool, tout ça. Ils sont arrivés à moi, mais catholique, le seul catholique de la bande, quoi. Vous comprenez le truc, quoi. Donc, c'est arrivé à moi, et puis ils m'ont dit, « Quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus ?» Waouh! Et je leur ai dit, je donne ma vie à Jésus tous les jours. Bon. Et ils m'ont dit, on me propose de l'écrire. Bon, ils m'ont bien eu en fait. Ils m'ont vraiment eu, quoi. Donc j'ai écrit dans ma Bible. Alors aujourd'hui, c'était en novembre, je ne sais plus combien. Je donne ma vie à Jésus et je l'accueille comme mon Seigneur. Et lui seul, j'avais rajouté ça, puis ils m'ont dit, tiens, lui seul, c'est original. Bon. Et 6 mois après, bon, j'étais rentré dans la communauté des Béatitudes, j'avais largué mon travail, tout ça, enfin, bref. Mais c'est surtout ce moment, je ne vous raconte pas le bonheur, un bonheur dans mon cœur. J'avais l'impression que Dieu dansait, dansera pour toi, un cri de joie. C'était ça.
Je voyais comme Jésus dansait. Waouh ! Bonheur ! Alors, je crois que c'est important de donner vraiment notre vie à Jésus, sans peur. Sans peur. Parce que Sainte Thérèse d'Avila, je l'ai fait plusieurs fois cela, mais je le répète, elle dit « Dieu ne force pas notre volonté, il prend ce que nous lui donnons, mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas, nous aussi, donnés à lui complètement. » Donc, s'il y a un problème, c'est qu'on ne s'est pas complètement donné à Jésus. Ah oui. Donc, on a pu dire, si, si, Seigneur, je te donne ma vie, alléluia, alléluia. Mais enfin bon, bref, on reprend les rênes, oui, assez vite. Seigneur, c'est toi qui prends maintenant le volant de ma vie. C'est pas toujours confortable, hein. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que après, la vie, mais elle devient super intense. Parfois, ça décoiffe quand même. On dit, Seigneur, tu ne pourrais pas un peu... ouf. Waouh. Voilà. Alors, pourtant, Sainte Thérèse d'Avila n'avait rien inventé, puisque Romains 12 nous dit, « Je vous exhorte, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Romains 12. Ça vous fait envie, hein, de vous donner comme sacrifice. Bon, alors je vous rassure tout de suite, sacrifice, c'est pas le gigot. Sacrifice, sacrum facere, en latin. Ça veut dire faire du sacré. C'est si vous êtes offert en sacrifice, c'est que vous sortez du domaine du profane. Autrement dit, vous sortez de la cave. C'est quand même sympa, non ? On sort de la cave, j'entends spirituel, pour entrer dans la lumière de Dieu. Ça, c'est le sacrifice. Je m'offre en sacrifice. Sacrum facere. Voilà. Alors, l'enjeu dans nos vies, c'est de nous livrer vraiment à Dieu et de nous livrer à la personne du Christ pour qu'il soit libre de faire ce qu'il veut en nous. La question, c'est est-ce que Dieu est libre de faire ce qu'il veut dans ma vie ? Allez, on prend juste 30 secondes. Vous vous rappelez, dans la vie de Sainte Thérèse, c'était aussi ça, de Lisieux maintenant, encore elle. Eh bien, la grande découverte de sa vie, c'est 2 ans avant de mourir. Elle s'offre à l'amour miséricordieux. On est en 1895. Et avec enthousiasme, waouh, c'est ça, quoi ! Jésus, il attend que nous lui ouvrions les portes de nos vies là où elles sont le moins belles, mais de nos vies tout court, pour tout embraser par sa miséricorde. Alors qu'avant on se disait, non, non, moi je donne à Dieu que ce qui est bien, et puis c'est jamais assez bien, donc comprenez, on va attendre un petit peu encore, et on attend. La petite Thérèse en 1895, elle découvre que Jésus a soif de nous aimer, de nous rejoindre, moi, toi, chacun, personnellement, collectivement aussi, mais personnellement. Dans sa miséricorde, son amour est un mouvement qui le fait descendre et le descendre et descendre et descendre encore jusqu'au néant. Rien comme ça. Tel est l'amour de Dieu pour chacun de nous. Alors, il y a sa sœur aînée, vous comprenez, alors elle a fait cette offrande le jour de la Trinité en 1895,
et par Marie. Et Mère Agnès, qui était prieure à l'époque, elle lui dit non, je n'ai pas du tout envie de faire ça, moi, parce que je n'ai pas du tout envie de souffrir. Parce que dans sa tête, s'offrir à Jésus, ça veut dire s'offrir à toutes sortes de souffrances. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui a envie de se retrouver avec une maladie incurable, comme Marthe Robin, et de passer le reste de sa vie dans un lit, sans boire ni manger, avec Dieu certes, mais bon, c'est pas forcément très attirant. Et elle lui dit, non, c'est beaucoup trop dangereux, moi je ne fais pas cette offrande-là, moi j'ai bien trop peur de souffrir. Elle lui dit, non, mais non, c'est pas pour souffrir, c'est pour aimer. Alors, Marie va nous apprendre à faire cette offrande. Parce que pour elle, il n'y a pas eu d'hésitation. Lorsqu'il a fallu faire un pas de plus, c'était le jour de l'Annonciation. Voir un ange, je pense que ce n'était pas un problème pour elle. Immaculée Conception, à mon avis, elle voyait les anges. Vous êtes d'accord avec moi? Elle devait voir les anges. Donc voir un ange qui vient, bon, c'est pas forcément un problème, d'accord? Mais par contre, un ange qui lui dit qu'il va être la mère du Sauveur, bon. Alors, vous voyez qu'elle va juste poser une question parce que son intelligence a besoin de suivre. Et ça doit beaucoup nous rassurer. Parce que, en Dieu, il n'y a pas de marionnette. En Dieu, notre intelligence, elle est éclairée. Et l'intelligence de Marie va être éclairée. Vous voyez, donc, on peut revenir de nos peurs. Si je me donne à Dieu, je ne sais pas ce qui va m'arriver, etc. etc. Dieu nous rend intelligents. C'est une bonne nouvelle, non ? Parce que notre intelligence va être éclairée, il nous donne de comprendre aussi. Comme Marie, pas tout, parce que Marie retenait toutes ces choses dans son cœur, elle ne comprenait pas tout, mais elle finissait quand même par s'ouvrir au mystère, à un moment ou à un autre. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a répondu à l'ange ? Est-ce que vous savez ce qu'elle a répondu à l'ange, finalement ? Je suis... Elle n'a pas dit « Je suis la servante du Seigneur ». Non. Je vais beaucoup vous choquer, mais tant pis. Dans le grec, c'est-à-dire la version originale, il est écrit le mot « doula », non pas « diakona ». Je suis l'esclave du Seigneur. Ça vous tente ? Je suis l'esclave du Seigneur. Parce que si nous ne sommes pas esclaves du Seigneur, nous sommes esclaves de qui ? Du démon. Parce que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alors, faites votre choix. Je me livre à toi, Seigneur, comme esclave. Mais on va rajouter d'amour. D'accord ? Oui, on va rajouter ça. Hein. Et Saint Louis, ceux qui ont été à Saint-Laurent-sur-Sèvre, où il y a son corps, il y a une châsse où on voit qu'il a une chaînette au pied pour lui rappeler qu'il est l'esclave d'amour de Marie. Elle est mère et elle est reine. Elle est notre mère et elle est notre reine. Et là, on ne va pas faire comme dans nos familles blessées, où on inverse les rôles. J'utilise ma mère. Qu'est-ce que ça m'apporte de prendre Marie ? J'utilise aussi les choses spirituelles. On n'est pas là-dedans. Si nous prenons Marie, c'est pour que Dieu nous utilise et pour qu'elle, finalement, puisse nous former, nous apprendre la foi, l'espérance, la charité. Et, je le répète, elle va le faire tellement discrètement. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Elle reste toujours en retrait, même si elle est présente. Notre intimité avec Jésus en est que plus grande. C'est une mère qui est animée par l'amour divin. C'est la mère du bel amour. Alors, la clé de nos vies va consister à nous livrer. Bon, je pense que vous avez déjà compris ça. Mais si nous nous livrons au cœur immaculé de Marie, c'est-à-dire à Jésus par Marie, alors ça sera plus fort. Parce que il n'y a rien à faire. Même dans les choses spirituelles, nous risquons de reprendre le volant de nos vies. Dire, par exemple, moi, j'ai un charisme confirmé. Moi, je, et c'est moi, du coup, qui est en avant. Et on y va. Et il y a des querelles de qui va commander, qui va prendre le pouvoir. Non, c'est moi qui suis responsable des fleurs. Non, c'est Élie, c'est pas toi, etc., etc. Enfin, on rigole. Hein. Mais en Marie, on n'est pas comme ça. On va être livré et on ne reprend pas le pouvoir. Et Marie va finalement nous forger. On va apprendre à vivre avec elle, par elle, en elle, pour elle. Attention, le pour elle, ça peut être un peu dangereux, parce que moi-même, hein, je me disais, il exagère un petit peu, hein, Louis-Marie, pour elle, non, moi je dis pour Jésus. Mais elle est tellement effacée, vous voyez. Dès qu'on dit Marie, elle dit Jésus. Et si nous prenons conscience de notre infirmité de cœur, alors, quel cadeau que d'accueillir Marie, agir par Marie, agir en Marie. Voilà. Là, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Je vais juste vous raconter comment la petite Thérèse vit sa communion eucharistique en demandant à la Sainte Vierge de l'aider. Alors, elle se représente le matin où elle va communier, elle représente son âme, se représente son âme comme un terrain libre parsemé de décombres. Ou, elle a une autre image, la figure d'un enfant de 3 ou 4 ans. À force de jouer, il a ses cheveux et ses vêtements salis et en désordre. Que fait Marie? Elle va s'empresser autour de son âme pour les opérations de parure et de nettoyage. Je vous cite la petite Thérèse. Elle a vite fait de me retirer mon petit tablier tout sale, de rattacher mes cheveux, de les orner d'un joli ruban ou simplement d'une petite fleur. Et cela suffit pour me rendre gracieuse, pour me faire asseoir sans rougir au festin des anges. Je ne puis pas dire que j'ai souvent reçu des consolations pendant mes actions de grâce. C'est peut-être le moment où j'en ai le moins. Je trouve cela tout naturel puisque je me suis offerte à Jésus, non comme une personne qui désire recevoir sa visite pour sa propre consolation, mais au contraire pour le plaisir de celui qui se donne à moi. Je me figure mon âme comme un terrain libre et je prie la Sainte Vierge d'ôter les décombres qui pourraient l'empêcher d'être libre. Ensuite, je la supplie de dresser elle-même une vaste tente digne du ciel, de l'orner de ses propres parures. Et puis, j'invite tous les saints et les anges à venir faire un magnifique concert. Il me semble, lorsque Jésus descend dans mon cœur, qu'il est content de se trouver si bien reçu, et moi, je suis contente aussi. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant, mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi? Aussi, lorsqu'en mon cœur descend la blanche hostie, Jésus, ton doux agneau, crois reposer en toi. Change mon cœur, Vierge Marie, en un corporal pur et beau, pour recevoir la blanche hostie où se cache ton doux agneau.
Marie est cette mère qui vient à notre secours parce que nous ne savons pas prier. On dirait, oui, mais c'est le Saint-Esprit qui vient. Mais oui, mais quand Marie est là, le Saint-Esprit, waouh ! Voilà. Et c'est une mère de miséricorde. On terminera là-dessus sans doute. Thérèse a écrit quelques pièces de théâtre. Vous savez, au Carmel, on faisait des petites scènes comme ça, pour, on appelait ça des récréations pieuses. Et il y a une pièce de théâtre qui s'appelle « La fuite en Égypte ». Et donc, elle imagine le dialogue entre la Vierge Marie et Susanna, la femme du brigand et la mère de Dimas, le futur bon larron de l'Évangile. Donc, on se trouve dans la fuite en Égypte. La Sainte Famille a marché toute une journée dans le désert et ils arrivent dans la caverne des brigands. Sauf que il n'y a plus assez d'eau pour baigner les deux enfants, Jésus et Dimas, le fils du brigand. Et le problème, c'est que Dimas était lépreux. Alors, la Sainte Vierge va dire « T'inquiète, pas de problème. » Enfin, elle ne dit pas exactement ça comme ça. Et Jésus va être béni avec Dimas, et Dimas est guéri. Et c'est là que Susanna, la maman, voit que c'est le ciel qui est entré dans son enfer, dans ses ténèbres, le ciel est descendu. Alors, elle exprime son inquiétude à la Sainte Vierge, et elle dit « Mon enfant, Dimas, va sans doute suivre les traces de son père. Et sa grande question, sera-t-il sauvé ? » Réponse de Marie. Sans doute, ceux que vous aimez offenseront le Dieu qui les a comblés de bienfaits. Cependant, ayez confiance en la miséricorde infinie du bon Dieu. Elle est assez grande pour effacer les plus grands crimes lorsqu'elle trouve un cœur de mère qui met en elle toute sa confiance. Elle est assez grande pour effacer les plus grands crimes lorsqu'elle trouve un cœur de mère qui met en elle toute sa confiance.
La prière de Marie va plus loin que notre prière et nous allons, comme à chaque fois que nous prions, mettre nos mains à l'intérieur de ses mains. Marie est celle qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. Parfaite disciple du Seigneur, elle va nous apprendre à écouter. Et Marie, au pied de la croix, nous apprend à prier. Ça a été la vocation de Thérèse, vous vous rappelez, Thérèse de Lisieux. Noël 86, c'est une effusion du Saint-Esprit. Thérèse va être remplie de la charité. Elle dit « Je sentis l'amour de Dieu pénétrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis, je fus heureuse. » L'effusion du Saint-Esprit, pour elle, c'était à 14 ans. 6 mois après, elle est dans la cathédrale de Lisieux, l'église Saint-Pierre, et elle voit une image de Jésus crucifié sortir de son missel. Et là, elle voit et elle entend. Vous savez, c'était une image Saint-Sulpice, très classique, un crucifix, personne en dessous, et puis c'est tout. Mais elle, elle voit et elle entend. Elle voit le sang de Jésus qui coule, des saintes plaies du Seigneur, et elle voit qu'il n'y a personne pour recueillir ce sang. Personne. Et elle entend. Elle entend la voix de Jésus qui crie « J'ai soif !» Et elle comprend que Jésus a soif de toutes les âmes. Surtout celles qui sont le plus loin, mais de toutes les âmes. Et d'elle aussi. J'ai soif. Et là, elle décide, et propulsée par le Saint-Esprit, évidemment, elle décide de se tenir en esprit au pied de la croix. Est-ce qu'elle ne voit pas déjà à ce moment-là? C'est que Marie, elle y est déjà au pied de la croix. Si vous avez vu le film de Mel Gibson sur la Passion, vous avez remarqué que Marie va recueillir le sang de Jésus. À un moment, elle se le met sur son visage. C'est un moment très fort. Et en fait, Marie, comme Thérèse, comme vous, nous sommes invités à prendre notre place aussi au pied de la croix où se joue le salut du monde, pour nous associer à la prière du Christ et, ce faisant, répandre le sang de Jésus sur les âmes. Parce que, nous dit Thérèse de Lisieux, Jésus veut que nous ayons part au salut des âmes. Comment ? Par notre prière et par notre sacrifice. Oui, par notre offrande de nous-mêmes, y compris des choses plus difficiles, évidemment. On retrouve le message de Fatima. À Fatima, la Sainte Vierge nous dit « Beaucoup d'âmes vont en enfer ». C'était en juillet 1917. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'âmes qui prient et qui se sacrifient. Et à la sellette, la Sainte Vierge disait « Je ne peux plus retenir le bras de mon fils ». Alors, il y en a qui disent « Oui, parce que le bras de son fils, il va tomber et puis il va nous donner une grosse baffe ». Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois que spirituellement, effectivement, Jésus a besoin comme d'être soutenu par l'amour de Marie et aussi par l'amour de l'Église. Et là, on a le mystère de l'Église. Nous allons rejoindre Marie aussi au pied de la croix, mais avec la force de Marie, pour que notre prière, par notre prière et par notre offrande, y compris de nos joies, de nous-mêmes, que tout soit dans l'amour, dans nos vies, ça c'est notre offrande, eh bien, puisse être aussi un moyen de répandre le sang de Jésus sur les âmes. Voilà, nous allons nous arrêter là et pour...